Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique, tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Je suis Gaspard Blanchard et tout d'abord, je tiens à souhaiter à tout le monde ici présent et à nos auditrices et auditeurs un merveilleux confinement. Hugues, joyeux confinement.
Merci, merci beaucoup.
Joyeux confinement, Delphine.
Merci.
Eva, à toi aussi, merveilleux confinement.
Je suis ravie, ravie, ravie. Merci Gaspard.
Certains et certaines d'entre nous ne peuvent pas aller voir leurs petits amis, ne peuvent pas aller voir leurs parents. Moi-même, j'ai le grand bonheur d'avoir un de mes meilleurs amis qui habite à Trévoux, qui est donc à 35 km de Lyon et juste à la limite du Rhône. Donc bisous à Adrien, ainsi qu'à toutes celles et ceux d'entre nous qui se retrouvent coupés des personnes qu'ils aiment grâce à la merveilleuse situation actuelle. En ce qui me concerne, les moments qu'on vit aujourd'hui, ça me rappelle à quel point c'est important d'aimer les gens qui nous entourent ici et maintenant. Alors j'ai eu envie de vous partager une pièce sur l'amour, la rupture et l'union, aussi ensuite à la lecture de la semaine dernière de Ring, de Léonore Confino. Donc cette pièce, c'est La réunification des deux Corées, écrite par Joël Pommerat. C'est une pièce qu'il a écrite il y a 8 ans. Sans unité narrative, c'est simplement que des scènes qui s'enchaînent, avec un thème en commun. Les personnages des différentes scènes, ils ne se connaissent pas, mais ils sont tous liés par leurs ruptures, leurs unions, que ce soit des ruptures et des unions entre amants, ou entre des parents avec leurs enfants, ou entre des amis qui se connaissent depuis des dizaines d'années. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à découvrir les pièces de Joël Pommerat. Pour moi, c'est un des auteurs contemporains les plus pertinents en France, et il vient d'un théâtre très institutionnel, mais malgré tout, il arrive à trouver des mots très justes sur les douleurs qu'on vit aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse en compagnie de nos mots. Bonne écoute.
Un lieu indéterminé. Une femme en manteau, la cinquantaine, répond à une interlocutrice invisible.
Vous êtes mariée depuis combien de temps ?
20 ans.
Exercez-vous un travail à l'extérieur ?
J'ai toujours été ce qu'on appelle une femme à la maison.
Vous avez combien d'enfants ?
3. Ils sont grands. Ils ont quitté la maison.
Vous êtes donc seule ?
Non, j'ai mon mari.
Évidemment. Il reste toujours à la maison ?
Non. Il est dans l'enseignement.
Pourquoi voulez-vous divorcer ?
Il n'y a pas d'amour entre nous.
Il y a longtemps que vous êtes mariés. Est-ce que cela a toujours été pareil ou...
Toujours pareil.
Et maintenant que vos enfants ont leur vie à eux, vous voudriez partir, c'est cela ?
Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il a été un excellent père. Nous ne nous sommes jamais disputés. Nous avons un appartement qui est très bien. Nous aimons tous les deux la musique de chambre. Et nous nous sommes inscrits à un groupe de musique de chambre. Nous faisons donc de la musique de chambre.
Mais tout ça paraît très bien.
Ah, très bien, oui. Mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu.
Excusez ma question, mais... Auriez-vous rencontré quelqu'un d'autre ?
Non.
Et votre mari ?
À ma connaissance, non.
N'allez-vous pas vous sentir un peu seule ?
Je pense que si. Mais je préfère cette solitude à cette absence d'amour.
Comment se manifeste ce manque d'amour ?
Il ne se manifeste pas du tout.
Ah, avez-vous dit à votre mari que vous vouliez divorcer ?
Oui, bien sûr. Il y a déjà 15 ans, je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui, puisqu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Il a très bien compris. Mais il m'a demandé d'attendre que les enfants soient grands. Maintenant, ils sont grands, tous les trois, ils ne sont plus à la maison, je peux donc enfin divorcer.
Et qu'en dit votre mari ?
Il m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé 100 fois ce qui n'allait pas entre nous. Je lui ai répondu qu'il n'est pas possible de continuer quand il n'y a pas d'amour. Alors il m'a demandé en quoi devait consister cet amour. Et je lui ai répondu que je n'en savais rien, puisqu'il n'est pas possible de décrire une chose que l'on ne connaît pas.
Mais c'est affreux.
C'est affreux. Il se passe en effet quelque chose de bizarre. Mes sens, Je veux parler du toucher, de la vue, de l'ouïe. Comment ça me trahir? Par exemple, je peux dire que cette pièce est grande, mais la sensation que j'en ai est abstraite, en fait. Et c'est pour tout pareil. La musique, les parfums, les visages des gens, leur voix. Tout devient de plus en plus pauvre, plus terne.
Je crois qu'il serait préférable que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce.
Mon mari dit que s'il refuse, c'est pour mon bien, parce que je le regretterai.
Et vous êtes fermement décidée ?
Je n'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, je crois. Dans une école primaire, une femme, la directrice et un couple font les 100 pas. Entre un homme, l'instituteur. Il serre la main au couple qui semble très froid.
Monsieur et Madame Vedrani, Monsieur Jaubert. Daniel, Monsieur et Madame Vedrani ont désiré avoir un entretien avec nous au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on se voie un instant, tous les quatre.
Bien sûr.
Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte. Enfin, plus que ça, même. On s'inquiète beaucoup. Et on aimerait vous entendre pour comprendre un peu mieux la situation.
Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qu'il se passe exactement?
D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Et maintenant, il reste apathique sur son lit. Il pleure, il fait des cauchemars, le médecin ne comprend pas.
Pour lui, notre enfant n'a rien.
C'est terrible.
Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications.
On aimerait comprendre ce qui a pu perturber ainsi notre fils.
Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour. Monsieur ?
Non, à part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à madame la directrice.
Eh bien, recommencez, Daniel, si ça ne vous dérange pas.
Eh bien, un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades dans le dortoir, pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé, il avait fait pipi sur celui et il errait dans le couloir. Il ne voulait plus retourner dans le dortoir de peur que les autres le harcèlent à nouveau. Je l'ai rassuré et réconforté et le lendemain, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre.
Notre fils dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là.
Qu'est-ce que vous racontez ? Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre, je l'ai changé car il était mouillé, il pleurait. Je l'ai réconforté et oui, je l'ai allongé sur mon lit.
Monsieur, vous avez couché notre fils dans votre lit.
Vous n'aviez pas mentionné ce détail avec moi.
Non, j'ai conduit votre fils dans ma chambre pour le changer. Pour ne pas qu'il reste dans le couloir. Pour ne pas le déshabiller dans le couloir, dans les courants d'air. Comme je vous l'ai déjà dit, ma collègue était malade cette nuit-là, je n'ai pas osé la déranger. Je me suis débrouillé au mieux pour faire face à l'urgence de la situation.
C'est maladroit d'avoir procédé de cette manière.
Sans doute, j'en prends conscience, effectivement.
Ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants dans votre chambre ?
Qu'est-ce que vous me racontez ? Non, jamais, évidemment. C'était un cas particulier, j'ai dû faire face à une situation particulière. J'ai pris Antoine dans ma chambre, le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses draps et de le réconforter.
Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous précisément ce qui s'est passé dans cette chambre avec notre fils.
Quoi, précisément ? Antoine pleurait, il avait froid, il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres, il était effrayé. Je l'ai conduit dans ma chambre, je suis allé chercher des vêtements secs, je suis revenu, je l'ai changé, et surtout, je l'ai réconforté. Je l'ai allongé sur mon lit, il tombait de sommeil. Il s'est endormi, finalement, alors je l'ai laissé dormir.
Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre ?
Quoi ? Il a dormi dans votre chambre la nuit complète ?
Oui. Je suis allé changer ses draps dans le dortoir et au petit matin, quand il s'est réveillé et qu'il était rassuré, je l'ai reconduit avec les autres pendant que eux dormaient. Ainsi, ils ne se sont rendus compte de rien. Et voilà, le lendemain, il était calme et l'incident avec les autres était oublié.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez fait que le changer, pas qu'il avait dormi avec vous.
Il n'a pas dormi avec moi. Il a dormi dans ma chambre.
Dans votre lit ?
Évidemment, sur mon lit.
Et vous ? Vous avez dormi où ?
Mais j'ai dormi par terre !
Mais comment est-ce possible que mon enfant ait pu dormir dans votre chambre ?
J'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez préféré que je laisse votre fils mouiller dans son pipi ? Ou bien que je le change dans le dortoir, devant ses camarades, que j'aurais forcément réveillé, alors qu'il était devenu leur bouc émissaire, qu'il avait été humilié par eux la veille. On dirait que vous préféreriez que je vous dise que j'en ai rien à fiche de votre enfant et que j'ai été indifférent à lui.
Dites-nous si vous n'avez pas plutôt dormi dans le lit avec mon fils plutôt qu'à côté.
Vous m'injuriez.
Mais vous n'avez pas cessé depuis le début de revenir sur vos propos et de mentir.
Je n'ai pas menti. J'ai omis de vous dire certains détails et je le regrette, c'est mon erreur.
Votre erreur surtout n'est-elle pas d'avoir eu des gestes déplacés sur mon fils, monsieur ?
Quel geste déplacé ?
Antoine nous a dit que vous l'aviez... caressé. Il a employé ce mot.
Caressé ?
Oui, il nous a dit « Non, non, monsieur Jobert a été très gentil, il m'a bien caressé pendant que je pleurais. »
Mais ça va pas ! Mais je n'ai certainement pas caressé votre enfant au sens où vous l'entendez. Je vous ai déjà dit qu'il pleurait et je l'ai consolé. Et oui, je lui ai sans doute caressé la tête, les cheveux, peut-être, pour le calmer. Je vous ai déjà dit qu'il était en pleine terreur et confusion à cause du cauchemar, du pipi au lit et du rapport violent avec ses camarades. Moi, j'en peux plus, j'arrête de parler à ces gens.
Eh bien moi, monsieur, je n'ai pas envie que vous arrêtiez. J'ai besoin de savoir quel rapport vous avez eu avec mon enfant cette nuit-là et même quel rapport vous entretenez en général avec lui.
Quel rapport ?
Oui, puisque selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude avec lui. Définissez la relation que vous avez avec mon fils, monsieur, avec vous.
Mais c'est un procès que vous me faites.
Ce sont des parents. Ils ont des doutes et ils veulent vous entendre et je ne peux pas les blâmer après ce que je viens d'apprendre que j'ignorais.
Antoine est un enfant particulier, plus délicat et sensible que les autres, plus fragile donc, et j'ai une attention particulière à lui. Voilà, j'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre. Il est éveillé, intelligent, et quand on discute, je prends du plaisir. Voilà, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, pour le plaisir et pour l'échange, en l'occurrence avec des enfants. Oui, j'ai une affection pour votre enfant, et je n'en ai pas honte. Il n'y a aucun mal à ça, aucun mal à avoir des préférences dans la vie, et j'en ai une pour Antoine. Mais je sais faire la part des choses, madame, je suis un professionnel. Je fais mon métier par amour, si vous voulez savoir, et non pas comme un fonctionnaire. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants. Et j'aime votre enfant, si vous voulez savoir. J'ai même de l'amour pour lui, et je n'en ai pas honte.
Quoi ?
Vous aimez mon enfant, mais c'est insupportable d'entendre ça.
Oui, madame, je n'ai pas honte du mot amour. J'aime Antoine, et ce mot n'a certainement pas pour moi la signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas honte de ce mot. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail, je n'ai fait que mon travail, mais en faisant mon travail, j'ai aussi agi avec amour et par amour pour votre fils. C'était mon devoir, rapport à sa souffrance. Mais j'ai aussi agi par affection et par amour pour lui.
Alors là, c'est très très grave.
Qu'est-ce que vous dites, Daniel ?
Vous avez dit quoi ?
Vous aimez mon fils, monsieur ?
Et j'en suis fier, et je n'ai pas honte de le dire, et aucunement l'intention de me cacher.
Mais nous allons porter plainte !
Vous avez des enfants, monsieur ?
Oui, monsieur ! J'en ai 25, des enfants, tous les jours, depuis 10 ans ! Des enfants à qui j'essaie de donner le maximum, c'est-à-dire du temps, de l'attention, mais aussi de l'amour et de l'affection, à qui j'essaie de transmettre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal, et ça arrive souvent, j'essaie de l'aider, j'essaie de le soutenir, j'agis avec mon cœur, et non pas comme un fonctionnaire en fonction d'un règlement. Et c'est ça que vous me reprochez ? D'avoir agi avec mon cœur et avec amour avec votre enfant ?
Arrêtez de parler d'amour, de prononcer ce mot d'amour, c'est insupportable.
Vous êtes des abrutis, et je vous le dis bien en face.
Mais ça va pas.
Oh. Arrêtez, Daniel, arrêtez.
Et vous devriez davantage vous interroger vous-même sur les raisons du mal-être de votre enfant.
Arrêtez,
en ce moment.
Daniel.
Non, je ne m'arrêterai pas. Ce monde croule sous le désamour, et ce sont des abrutis pareils qui donnent des leçons aux autres et qui nous envoient tous à la catastrophe.
Notre fils est tombé en dépression à cause d'un criminel, il a été abusé et on se fait mais insulter. Mais j'espère que vous allez pourrir, crever en prison, monsieur.
Vous savez quoi ? Je vais vous dire, moi, de quoi votre fils manque le plus cruellement, à mon avis. Et bien qu'on lui dise qu'on l'aime, que vous lui disiez que vous l'aimez. Vous pensez le protéger, là, en m'accablant comme ça ? Vous êtes très fiers de vous. Vous vous sentez légitime en tant que parent. Vous savez ce dont Antoine souffre le plus, à mon avis ? C'est que ses parents sont incapables de lui exprimer de l'amour.
Taisez-vous, Daniel.
De lui dire qu'il l'aime et que ce soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux alors que ce n'est pas son rôle. Voilà le véritable problème de votre fils aujourd'hui. Et plutôt que de regarder ce problème en face, de le traiter parce que ça vous fait peur, vous vous acharnez sur moi.
On va vous casser, monsieur. Faites-moi confiance, on va vous détruire. Pour tout que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne.
Allez-y, je me sens prêt.
Dans un appartement, la nuit, un homme avance dans un long couloir qui mène à un petit salon. Une femme qui se tient debout près d'un fauteuil l'attend.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous dérange peut-être ?
Non, non.
J'ai vu de la lumière sous votre porte, j'ai compris que vous n'étiez pas couché.
Oui. Venez.
Merci. Ma femme n'est toujours pas rentrée. Je me suis dit que je n'allais pas réussir à dormir. Moi non plus.
Ah oui. Vous avez bien fait. Mon mari n'est pas rentré, lui non plus.
Je sais, oui. À vrai dire, je guette chaque bruit dans l'escalier depuis plus de 2 heures et je n'ai pas entendu rentrer votre mari.
Votre femme ne vous a pas téléphoné ?
Non.
Mon mari ne m'a pas téléphoné non plus.
Vous étiez occupée à quelque chose ?
Non. Je n'étais occupée à rien. On dirait que quelqu'un monte l'escalier ?
Oui, c'est quelqu'un.
Quelle heure est-il ? C'est une femme ?
Oui. Non, c'est au 4e.
L'autre soir, on en a ri. Vous vous en souvenez ?
Oui, on a ri. Mais ce n'était pas vraiment gay.
Non, c'est vrai. Mais quand même, c'est drôle.
Oui. Il y a quelques mois, on ne se connaissait pas. On se croisait quelquefois sur le palier. Et aujourd'hui, on passe nos soirées ensemble.
Mon mari et moi, nous avons une confiance l'un dans l'autre qui est infinie. Si nous nous sommes mariés, c'est parce que nous nous sommes reconnus, exactement comme si nous avions trouvé chez l'autre un morceau de nous-mêmes qui nous manquait. Il est indispensable à ma vie, tout comme moi je le suis à la sienne. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme qui va remplir ma vie jusqu'à ma mort. Je vais vous avouer un secret. Nous venons de décider de faire un enfant. Notre décision est prise et nous déménagerons certainement prochainement.
C'est formidable.
Il est déjà 2 heures, ça y est, je crois. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Je vais avoir une tête affreuse demain en me réveillant.
Ne vous inquiétez pas, je trouve que vous êtes plutôt jolie. Même fatiguée. C'est pas la première fois que je le remarque. J'ai dit plutôt jolie, pour ne pas vous gêner, mais... je pense très jolie. Je m'excuse.
Ça n'a aucune importance.
Avec ma femme, nous avons décidé de ne pas faire d'enfants. Nous pensons que... les enfants ne sont pas forcément indispensables à la vie de notre couple.
Vous voulez que nous mettions de la musique ?
Peut-être que ce serait bien que je rentre chez moi. Il est tard.
Nous ne faisons pas de mal.
Non, évidemment.
Ah, j'entendais pas dans l'escalier. J'ai entendu une voix.
On dirait la voix de votre mari.
Oui, mais il y a 2 personnes. C'est peut-être le couple du 3e.
Oui, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont dépassé le 3e étage.
Il n'y a que 5 étages. Ça ne peut être que pour nous cette fois. C'est votre femme, accompagnée de mon mari.
Oui, c'est étonnant. Ils ont dû se rencontrer en bas, devant l'entrée ou bien au parking. Ils murmurent, ils ont peur de nous déranger ou de nous réveiller. C'est drôle. Je devrais partir peut-être.
Ce serait peut-être bizarre que vous sortiez maintenant, non ? Alors qu'ils sont là, sur le palier.
Comme si nous avions quelque chose à nous reprocher.
Oui, peut-être. Je n'entends plus leur voix.
Excusez-moi, je... j'aimerais bien ne pas laisser penser à ma femme que j'étais en train de l'attendre fébrilement. Nous pourrions peut-être dire que vous m'avez demandé un service, que je suis venu chez vous, qu'ensuite nous avons discuté et que nous n'avons pas vu le temps passer.
Oui, oui, c'est bien, mais quelque chose sans ambiguïté.
Oui, bien sûr, pourquoi est-ce qu'il y en aurait ?
Non, non, bien sûr.
Ou bien alors peut-être que créer un peu d'ambiguïté ne serait pas malvenu.
Créer de la jalousie de façon artificielle pour inquiéter mon mari et votre femme. Je n'aime pas jouer avec ces choses-là.
Moi non plus. Je déteste ce genre de comportement chez les autres. Je ne me suis jamais comporté comme ça avec ma femme. Ce sont des jeux pervers et malsains.
Oui, tout à fait.
On ne peut pas transiger avec l'amour. Il est entier, éternel, absolu, ou bien il ne l'est pas.
Ce n'est pas une fatalité. Je suis d'accord. En amour, la confiance et l'élégance sont essentielles.
Ma femme et moi, nous sommes promis de ne pas nous laisser aller à la médiocrité, comme la plupart des gens.
Oui, exactement. Je pensais mettre un peu de musique. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, bien sûr. Allez-y.
C'est surtout à l'intérieur qu'il faut rester grand. Et il faut savoir rester fidèle à soi-même. Hein? Rien de grave ne pourra nous arriver si on garde en soi la croyance.
Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est exactement comme ça que je vois les choses.
Nous sommes proches finalement, vous et moi.
Oui, c'est extraordinaire, je le ressens aussi.
Oh oui, c'est bien agréable hein, de se comprendre comme ça.
Et la femme se regarde, puis se lève, se rapproche l'un de l'autre, s'enlace. Et se mettent à danser.
Dans un appartement. Une femme en habit de nourrice, le regard tourné vers la porte d'entrée. On entend des bruits de clés dans la serrure. Entre une femme suivie d'un homme.
Bonsoir.
Bonsoir madame.
Alors, ça a été? Pas trop compliqué la soirée?
Très bien.
Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur.
Ça va? Ça a été?
Oui, oui.
Tout s'est bien passé au moment du repas?
Oui. Très bien.
Ils n'étaient pas trop agités?
Non.
Ils sont un peu agités, hein?
Où sont les enfants?
Comment?
Où sont les enfants? À cette heure-là?
Qu'est-ce que tu racontes?
Les enfants ne sont pas dans les chambres. Je vous demande où sont nos enfants?
Je comprends pas.
Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans notre chambre?
Madame, je vous demande ce que vous... Où est-ce que vous avez mis nos enfants?
Et moi, je vous dis, je comprends pas ce que vous dites.
Elle est dingue, cette femme. Dans la salle de bain, les toilettes, va voir. Je vous demande de nous répondre. Vous avez fait quoi avec nos enfants? Hein? Où sont-ils? Répondez.
Je comprends rien.
Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qu'il se passe, s'il vous plaît.
Non, mais arrêtez, s'il vous plaît.
Non, ils n'y sont pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar?
Elle est complètement folle.
Si vous ne répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants.
Il n'y a pas d'enfants.
Je ne veux pas qu'il leur soit arrivé de mal.
Calme-toi.
Appelle la police.
Expliquez-nous ce qui se passe, merde.
Je comprends rien.
Je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de nos enfants.
Mais il n'y avait pas d'enfants.
Appelle.
J'appelle.
Oh putain, mais putain!
putain.
Bonsoir, monsieur. Nous sommes sortis, on a confié nos enfants à une nourrice spécialisée. On vient de rentrer, les enfants sont introuvables. Et la nourrice refuse de nous répondre, elle répond de manière incohérente. Mais non, monsieur, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre explication à la situation. Cette femme nous donne aucune explication.
Mais c'est complètement absurde, je veux rentrer chez moi.
Vous êtes complètement folle. S'il est arrivé quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue.
15 avenue de la séparation, 7e étage, face ascenseur.
Il est arrivé malheur à nos enfants. Mon amour, il est arrivé malheur à nos enfants.
Mais non.
Et pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi?
Arrête. On va trouver la bonne explication. On va les retrouver en vie. Hein? Vous n'avez pas fait de mal, hein? Dites-moi, vous n'avez pas fait de mal à nos enfants. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Vous avez des problèmes de santé? Vous suivez un traitement particulier? Maintenant, on va se calmer et vous allez nous expliquer tranquillement les choses. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce soir. Allez!
Il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez, j'étais mal à l'aise et c'est tout.
Pourquoi vous étiez mal à l'aise?
Parce que je n'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé.
C'est-à-dire?
Mais de garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants!
Il n'y avait pas d'enfants?
Comment est-ce que tu peux rester aussi calme?
Et vous n'avez pas d'enfants et vous le savez très bien. La police va arriver. Vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé!
Calme-toi.
On est en train de perdre du temps, là. Tu te rends pas compte que nos enfants sont quelque part dans la nature et qu'on n'est là à rien foutre?
T'as une autre solution? Tu veux faire quoi? Tu veux descendre? Courir comme un lapin dans les rues, dans toute la ville? Qui te dit qu'ils ne sont pas déjà loin? Ou bien tout près de nous, là? On doit essayer de comprendre ce qu'elle a dans la tête, cette bonne femme, pour en déduire ce qu'elle a fait. Alors, aide-moi un peu, s'il te plaît.
La police va arriver de toute façon.
Vous dites qu'on n'a pas d'enfants?
Non.
Et pourquoi on vous les aurait confiés ce soir et demandé de les garder?
Parce que vous faites comme si.
Ah bon?
Oui, parce que vous en avez besoin, vous m'avez dit.
Ah bon?
Oui, vous avez besoin de faire comme si. Mais j'ai hésité à rester quand j'ai su la situation, mais finalement j'ai accepté de rester, mais j'ai besoin d'argent.
Mais pourquoi on ferait ça?
Mais vous m'avez dit que vous aviez besoin de faire ça.
Je vous ai raconté tout ça, moi?
J'en peux plus de l'écouter. Qu'est-ce qu'ils foutent, les flics?
Et en partant, après m'avoir raconté tout ça, quand on était à la porte, moi, mal à l'aise, en souriant avec un drôle de regard, vous m'avez dit « Prenez vraiment bien soin de nos enfants ». J'ai dit « Ok, d'accord, je vous le demande résolument ». Vous avez dit ça, résolument. Nos enfants sont vraiment essentiels pour nous, faites en sorte qu'il ne leur arrive rien. J'ai répondu que j'allais faire tout mon possible, mais j'étais très mal.
Résolument, j'ai dit ça.
Oui, résolument.
Elle est démente. J'ai très, très peur.
Madame, s'il vous plaît, en fait, ça ne sert à rien de discuter avec vous. Vous êtes folle. Je vous en supplie, c'est tout. Rendez-les-nous sains et saufs. Rendez-les-nous vivants, s'il vous plaît. Je vous en supplie.
J'en ai pas les moyens.
Vous êtes une bonne personne, dans le fond. Vous êtes peut-être maman, vous aussi, non? Peu importe ce qui vous a poussé à agir. Dites-nous où ils sont et s'ils vont bien.
Police, ouvrez!
C'est la police!
Alors voilà, faites un effort, madame. Dites-nous les choses. Ayez pitié, tout simplement. Nos enfants, c'est ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, madame, dans notre vie.
Police, ouvrez!
Si vous nous retirez nos enfants...
Notre vie s'arrêtera.
Elle n'existera plus.
Notre histoire perdrait tout son sens.
Tout s'effondrerait.
Notre vie n'aurait plus aucune réalité.
Justification, et nous finirions par nous perdre l'un l'autre.
Vous éloigner d'abord, et puis nous perdre intégralement.
Totalement, ensuite.
Notre histoire tombera d'elle-même peu à peu, comme de la poussière.
Car dans le fond, on doit vous l'avouer,
nous n'avons rien à nous dire de vraiment important.
Ah, et rien à partager.
Rien en commun, vraiment.
Rien à faire ensemble d'important.
De vraiment nécessaire et crucial sans nos enfants.
Et alors, on deviendrait comme deux étrangers.
De fantômes l'un à l'autre, et ça, nous ne le voulons pas.
Non, nous le craignons comme la mort.
Nous ne voulons pas perdre notre couple.
C'est ce qui nous tient en vie, notre couple.
Vous savez, un couple, c'est comme un être vivant.
Ça tient lieu de vie, un couple.
C'est un repère essentiel.
C'est comme un phare qui illumine la vie.
Notre vie.
Un couple, c'est aussi une lumière qui prévient les autres de votre...
De notre existence.
C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir.
Notre couple s'est construit sur nos enfants.
Alors sans nos enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité.
Non, zéro identité.
Alors
N'avez pas pitié de nous maintenant.
S'il vous plaît.
Répondez.
Rendez-nous nos enfants.
Rendez-les-nous.
Attention, on va aller ouvrir la porte et la police va entrer si vous persistez dans votre silence.
On entend sur le palier la police qui se retire.
Je vais vous laisser peut-être maintenant. Est-ce que, malgré tout, vous pourriez me payer ? Enfin, je suis désolée, j'en ai besoin en ce moment.
Bien sûr. Tu as de l'argent, toi ? Du liquide ?
Va te faire foutre, connard.
Bien sûr. Tenez.
Merci.
Merci. Désolée.
Et moi, je suis désolée pour vous. Au revoir.
Au revoir.
Une allée dans le parc d'un hôpital. Un homme semble attendre une femme qui hésite à suivre.
Viens, on va marcher un petit peu, Cécile.
Pourquoi ?
Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un peu, comme tous les jours. Et puis parce que c'est l'heure, voilà.
Ah, bon ? On marche tous les jours ?
Oui.
Ah bon ?
Tu ne veux pas marcher aujourd'hui ?
Si, si ! Comme tous les jours ?
Quasiment.
Ah. Et ensemble ?
Absolument.
Ah bon ? Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui, en fait ?
Je suis ton mari.
Mon mari ?
Oui.
On est mariés ?
Absolument.
Ah bon ? Ben, on est mariés, vous et moi ?
Absolument.
Et depuis combien de temps ?
17 ans.
C'est vieux. Je veux dire, dans la durée ?
Oui, assez.
Vous êtes mon mari. Vous appelez comment ?
Serge.
Serge !
Tu peux me tutoyer, en fait.
Ah oui, évidemment, si on est mariés. C'est étonnant, vraiment.
Oui, je sais.
Je suis votre femme, en fait.
Ben oui.
Je suis ta femme. Ta femme. C'est drôle, ça. Et tu fais quoi dans la vie ?
Je vends des voitures.
C'est un métier ?
Oui, c'est un métier.
Et on vit ensemble ?
Non, on ne vit plus ensemble. Tu vis ici, toi.
Ah, en fait, on est séparés.
Oui et non. Tu es hospitalisée depuis 2 ans.
Merde alors ?
Ouais.
Qu'est-ce qui m'est arrivé ?
Oh non, pas cette histoire à nouveau, s'il te plaît.
Ah bon ? Bah, ça me semblait important, mais bon. En tout cas, je dois plus avoir énormément de mémoire. J'en reviens pas que je sois mariée avec vous. Ça veut dire qu'on est amoureux ? Ou qu'on l'a été, sans doute ? Oh, c'est drôle.
Mais qu'est-ce qui est drôle ?
Bah, cette idée. Je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait.
À peu près tous les jours.
Je vous pose des questions tous les jours ?
Oui, à peu près, à cette même heure. C'est l'heure où je passe te voir. C'est le plus pratique pour moi. Alors on marche, comme ça, et tu me poses des questions. Souvent, en premier, c'est « Mais qui êtes-vous ?» Et hop, après, c'est parti.
C'est agaçant. Je n'ai aucun souvenir de tout ça.
Non, aucun. C'est agaçant. Mais c'est pas grave. Il y a des vies encore plus compliquées que la nôtre. Faut pas se plaindre.
Non, mais c'est ennuyeux. Tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. On a des enfants ?
2.
Ah bon ? Ils ont quel âge ?
13 et 17.
Filles ou garçons ?
Bah, les deux.
Et ils s'appellent ?
Antoine et Marie-Ève.
Ah bon ?
Quoi ? Tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui ?
J'ai pas dit ça. J'ai des enfants.
Oui, tu as des enfants. On a des enfants.
Mais comment c'est possible, ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas me voir?
Mais si, ils viennent te voir. Bien sûr, principalement le week-end. Ils sont venus il y a 2 jours.
Il y a 2 jours?
Ils t'aiment beaucoup, rassure-toi.
Ah bon? Et moi, je les aime aussi?
Oui, bien sûr. Beaucoup, évidemment.
J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Vous m'aimez, vous aussi?
Oui, absolument.
En fait, moi je ne suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît très rapide tout ça.
Je sais, ne t'inquiète pas.
C'est gênant quand même pour des gens mariés de ne pas être sûr de s'aimer, vous trouvez pas?
Non, non, c'est pas grave.
Ah bon?
Je m'en fous.
Ah bon?
Pardon, mais... Essaye de me tutoyer surtout, certains jours tu y arrives.
D'accord, pardon. Est-ce que je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour ensemble?
Bah oui, au moins 2 fois.
C'est une plaisanterie.
Bah oui.
On a déjà fait l'amour ou pas?
Bah oui, on a déjà fait l'amour ensemble, évidemment. Écoute, je sais pas, je sais que tu le fais pas exprès, mais aujourd'hui ça m'angoisse de plus en plus tes questions. Excuse-moi, d'autant que je suis fatigué.
Je m'excuse, ce sont de simples questions. Elles qui me paraissent naturelles à moi.
Excuse-moi, ta mémoire n'a plus son meilleur rendement. Je ne t'en veux pas, c'est dur des fois. On a fait 2 enfants ensemble, alors voilà. Oui, on fait l'amour. On l'a même fait hier, l'amour, si tu veux que je te dise.
On a fait l'amour hier?
Oui, très rapidement, en rentrant de se balader dans ta chambre. Oui, certains jours, tu en as très envie.
Ah bon? Oh, j'arrive pas à imaginer ça.
Ben, c'est comme ça. On parle à peu près comme on est en train de le faire. Tu me poses à peu près les mêmes questions, et puis à un moment, quand je te raccompagne dans ta chambre, tu me demandes si j'en ai envie. Tu me dis que ça t'a donné envie, cette discussion avec moi. Envie de faire l'amour avec quelqu'un. Alors tu me demandes si je serais pas d'accord de le faire avec toi.
Je te parle comme ça?
À peu près, oui.
Et tu me réponds quoi?
Ça dépend. Hier, j'ai répondu d'accord. Je suis d'accord d'être cette personne avec qui tu vas pouvoir concrétiser cette envie de faire l'amour avec quelqu'un.
On pourrait peut-être se prendre dans les bras, si vous voulez.
Tu en as envie?
Je ne sais pas. Et vous? Et toi?
Si tu en as envie.
Pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois.
Oui, je sais.
Alors, on peut essayer, peut-être. Qui commence?
Bah, vas-y, toi.
C'est la première fois.
Ouais, je sais.
Que je prends un homme dans les bras. On s'aimait de quelle manière quand on s'est marié?
Comme un couple ordinaire qui vient de se marier.
C'est quoi un couple ordinaire?
Ben, des gens ordinaires qui se marient.
Ah bon?
Mais non! Quand on s'est marié, c'était parfait! On était comme 2 moitiés qui s'étaient perdues et qui se retrouvaient. C'était merveilleux, c'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient et que des gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête, on sentait qu'on était reliés, que ça remontait à très loin.
Ah bon? C'était comme ça? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est vraiment d'accord aujourd'hui, tous les deux? Ou qu'on aime le mieux faire ensemble par-dessus tout?
En dehors de faire l'amour?
Oui.
Ramasser des champignons.
Ah bon?
Oui.
Mais c'est ridicule.
Absolument. Je sais, mais on adore faire ça.
Ah bon?
Ouais.
On peut peut-être retourner un peu dans la chambre, si vous voulez, si tu veux. Je suis fatiguée maintenant.
Tu es fatiguée?
Oui, un peu. J'ai envie d'aller dans la chambre.
Mais écoute, on va y aller. Tiens encore un peu de temps.
Ah, bah c'est bien. Je suis un peu fatiguée.
Non, c'est par là, ta chambre.
Ah bon? Ah, bien.
Un cabinet de consultation dans un établissement médico-social. Une femme est assise. Un homme se tient debout en face d'elle. Derrière lui, une infirmière en blouse observe.
Écoute, Annie, j'ai demandé à te parler parce qu'on m'a dit la situation et je me fais beaucoup de soucis. On m'a dit que tu persistais dans ta décision, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Comment ?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux, Annie ?
12 ans.
12 ans. Est-ce que tu as eu raison de me faire confiance jusque-là, depuis toutes ces années ?
Si.
Si. Alors, pourquoi tu ne veux pas m'écouter aujourd'hui ? Tu t'es déjà fait avorter plusieurs fois déjà, dis-moi.
Oui.
Alors, en quoi ça serait différent aujourd'hui ?
C'est différent.
C'est différent ? Qu'est-ce qui est différent ?
C'est mon bébé. C'est l'enfant de mon amour.
C'est l'enfant de ton amour ?
Oui.
C'est-à-dire ?
C'est l'enfant de Frédéric. C'est notre enfant à moi et à Frédéric.
Je t'en prie, Annie. Tu sais très bien que tu ne pourras absolument pas compter sur cet individu. Comment est-ce que tu ferais pour t'occuper seule d'un enfant, dis-moi ?
Je me sens bien. J'ai de la joie, ça me donne de la force.
Tu as de la joie ?
Oui.
Tu as peut-être de la joie en ce moment, à cause d'un petit bouleversement hormonal dû à ta grossesse, mais ça, ça va passer.
Non, c'est l'amour.
C'est l'amour. L'amour de qui ?
L'amour de Frédéric.
Frédéric ? Tu me parles encore de Frédéric ? C'est quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi, Annie, et qu'on a décidé de ne pas garder ici à cause de comportements totalement inqualifiables. Il est sans doute à l'origine de ta grossesse, mais c'est certainement pas un père sur qui tu pourrais compter, Annie. Réveille-toi.
On s'aime, on est amoureux et j'attends son bébé.
Annie, j'aimerais bien que tu arrêtes de me parler d'amour en rapport avec un individu pareil. Je l'ai pratiqué pendant des années, ton Frédéric. Moi aussi, je le connais très bien. Je l'ai vu se comporter au quotidien. Il est agressif au dernier degré. En plus d'être violent, on sait qu'il a essayé d'exploiter sexuellement plusieurs femmes du centre. On l'a menacé de le dénoncer à la police. Allô, oui ? Eh bien, je m'en fous ! Je vous l'ai déjà dit. J'ai changé d'avis. Et puis, c'est tout.
Je peux m'en aller.
Mais non, on a une décision à prendre, Annie. Une décision grave et très importante pour toi, pour ton avenir. On le garde ou on le garde pas, cet enfant ?
Frédéric et moi, on a décidé de le garder.
Mais tu ne vois pas que tout le monde essaye de te parler, de te dire les choses ? Il n'y a pas que moi qui te parle comme ça. Tout le monde que tu connais te parle comme je suis en train de te parler là, en ce moment, avec les mêmes mots. Tout le monde te dit que tu es en train de foncer au devant d'une très grande tragédie, que tu vas être très malheureuse, que tu vas souffrir.
Depuis que j'ai de l'amour en moi, je me sens très heureuse.
Mais ça n'existe pas, l'amour, Annie. Merde ! C'est des inventions, c'est dans la tête. C'est comme un délire. L'amour, c'est une sorte de maladie. C'est pas beau, l'amour. Faut arrêter avec ces conneries. L'amour, ça fait faire des choses totalement insensées, dangereuses. Ça met en danger les individus. La preuve ? Réveille-toi, Annie. Tu mets ta vie gravement en danger. Tu es en danger, Annie.
Non, je crois pas. Frédéric est fort, il nous protégera.
Annie, tu es amoureuse d'un détraqué, hyper violent, asocial, dragueur compulsif, alcoolique et...
Alors pourquoi je me sens aussi heureuse ?
Ce qui se passe en toi, c'est une simple réaction neurochimique, Annie. Et c'est tout, rien de plus. Quelque chose que tu fabriques toi-même. Comme si tu t'étais prescrit à toi-même un très bon antidépresseur. Peut-être que ton traitement actuel n'est pas bien adapté. On peut le modifier pour que tu te sentes un peu mieux, sans avoir à te fabriquer des histoires aussi mielleuses dans la tête et te mettre dans des situations pareilles, des situations où tu te mets en danger. Je vous ai déjà dit d'arrêter de m'emmerder, vous ! Je suis en réunion. Bon. Quand est-ce qu'on avorte, Annie ? Vraiment, on est dans une situation intenable. On ne peut pas te laisser faire ça. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas.
Mais je sais que ça va bien se passer. Moi, je ne m'inquiète pas autant que vous.
Ça va bien se passer.
Mais oui, grâce à l'amour, ça va bien se passer.
Je vais te dire, Annie. Déjà, dans la vie normale, la vie des gens qui n'ont pas de handicap au départ, l'amour, c'est irréel. C'est un concept. Ce que les gens appellent l'amour, c'est comme l'alcool ou la drogue. Je suis bien passé pour le savoir, je te le garantis. Quand on se réveille de l'amour après 3 mois, 3 ans ou 15 jours, on se rend compte qu'on a déliré, qu'on a fantasmé et que c'est nul, que l'autre est nul ou qu'il est con ou bien qu'il sent mauvais. On se demande comment on a pu faire une chose pareille.
Le bonheur dans la vie, il faut le chercher en soi, pas chez les autres, et surtout pas dans l'amour.
Ce qui est différent, c'est que Frédéric et moi, on s'aime, et c'est très sérieux. En plus, on a décidé qu'on va s'aimer toute la vie, donc pas seulement un peu, toute la vie. C'est bon, je peux m'en aller ?
Oui, vas-y.
Vous faites pas de soucis. Mais tout va bien se passer puisque je me sens heureuse.
C'était la réunification des deux Corées, lecture par Gaspard Blanchard, Delphine Leroy, Eva Natalia Grenier et Hugues Calbrix. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Alors du coup, en ce moment, comme vous le savez, on n'a pas vraiment d'actualité culturelle vive. On ne peut pas vraiment vous faire d'agenda culturel, mais on peut vous faire un agenda de la lutte culturelle pour les précaires. Donc comme on vous l'a déjà indiqué, vous pouvez suivre sur Facebook la page Occupation Odéon 2021 qui rassemble assez toutes les actions nationales. Sur Lyon, vous pouvez suivre Occupation TNP 2021 et la lutte interclasse, intercours pour l'occupation de l'Opéra de Lyon par les écoles. Donc à l'Opéra de Lyon aujourd'hui, vous avez à 14h, donc dans 7 minutes, un set de DJ et à 17h un concert de chœur, chant traditionnel du monde, suivi d'un atelier d'improvisation vocale qu'ils appellent Circle Song. Au TNP, donc vous avez encore des AG lundi, mercredi et samedi à 12h30 et il y a un appel à manifestation le 7 avril à 14h devant le TNP pour les revendications qui sont l'abandon de la contre-réforme de l'assurance chômage, l'extension du régime intermittent à tous les métiers intermittents de l'emploi et précaires, extra de l'hôtellerie, restauration, événementiel, intérimaire, saisonnier, artistes, auteurs, autrices, prolongation de l'année planche pour les intermittents, diminution du nombre d'heures pour entrer dans l'intermittence, financement massif de soutien à l'emploi, hausse massive des aides sociales pour les étudiants et étudiantes, extension du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans.
Merci beaucoup et vous souhaite à tous, à toutes, chers auditrices et auditeurs, une belle après-midi. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine au Théâtre de la Gamelle.
On vous souhaite une belle semaine pleine de courage pour toutes ces nouvelles restrictions. Et
profitez bien de votre week-end de transition.
De transition. Voilà, n'oubliez pas de regarder bien sur Facebook tous les événements qui se passent pour les luttes dont il y a besoin. Et prenez bien soin de vous, surtout.
la semaine prochaine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snob.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.